Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris-Île-de-France. C'est la première en 2025, meilleurs voeux à toutes et à tous. Une année qui a bien démarré pour le PSG avec la victoire hier face à Monaco lors du Trophée des Champions. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Marois, chroniqueur Club Paris. Salut Alex.
Salut et bonne année à tout le monde.
Meilleurs voeux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le PSG en 2025?
Une victoire en Ligue des Champions, c'est pas mal.
Ah, une victoire carrément.
Ah ouais, pourquoi pas.
Clément Pernia est là également, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur le PSG. Salut Clément.
Salut Julien, salut à tous, bonne année.
Une bonne résolution pour le PSG?
Avoir un printemps européen. Connaître un printemps européen comme l'an dernier, une petite épopée, prendre du plaisir, vibrer un peu, ce sera déjà pas mal.
Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite au Paris Saint-Germain. Ouais. Le sommaire avec ce PSG qui a remporté hier sur le fil le Trophée des Champions face à Monaco. Focus sur Ousmane Dembélé, buteur hier soir, buteur intermittent depuis le début de saison. Le chantier de l'attaque parisienne, Ramos et Barcola remplaçants hier. Luis Enrique sait-il encore où il va, ou a-t-il atteint justement son objectif en termes de polyvalence et de rotation? Et puis le mercato, le PSG doit-il tout faire pour attirer la saison prochaine Mohamed Salah? C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. Le PSG doit-il tout faire également pour conserver Nuno Mendes? Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens omnisports. Cop Paris, c'est parti. Comme à la maison ou presque, on va revoir les images à Doha, au Qatar. Le PSG a donc remporté hier son premier titre de la saison. De quoi bien lancer 2025 pour les joueurs de Luis Enrique. Un trophée qui n'échappe d'ailleurs quasiment jamais au PSG. 13e trophée des champions dans l'histoire du PSG. Un titre que les Parisiens ont dû aller arracher au bout du suspense. La faute au choix, un manque d'efficacité ou un gardien en état de grâce. Un petit peu des deux finalement. Doué à frapper sur la barre. Philippe Kohn, le portier monégasque, a réalisé 9 arrêts. Ils s'y sont quasiment tous mis. Dembélé, Kanginli, Gonçalo Ramos, entrés en cours de match. Et finalement, sur son 28e tir, le PSG a enfin réussi à trouver la faille. Dans le temps additionnel, Fabian Ruiz pour Ousmane Dembélé qui offre le trophée des champions au PSG. Messieurs, vous avez pensé quoi de ce PSG hier à Doha? Est-ce que vous avez vu un bon PSG hier?
Moi, j'ai vu un PSG dans la continuité de la fin d'année 2024. C'est-à-dire en pleine maîtrise de sa prestation, qui tout de suite a pris l'ascendant sur un adversaire qui est censé quand même être la deuxième équipe de Ligue 1 et qui clairement abdique contre le PSG, en tout cas en début de saison. Un PSG qui a eu la maîtrise du ballon, qui a eu 28 fois. Voilà, qui encore une fois a manqué d'efficacité, tu l'as dit dans ta présentation, ouais. Qui a très peu subi. Voilà, un PSG en maîtrise, avec une composition d'équipe à la fois surprenante et à la fois dans la continuité de ce que fait Luis Enrique depuis mi-décembre, on y reviendra. Moi, j'aime bien ce PSG sûr de ses forces, j'aime bien ce PSG qui, on aime ou on n'aime pas le style, mais qui sait ce qu'il fait. On sait exactement que le PSG va presser très vite à la perte du ballon, que le PSG va vouloir garder le ballon. Hier, il y a eu quand même un peu plus de jeux en transition, j'ai l'impression que ça ronronnait un peu moins. Voilà, alors tu peux dire que ça peut mal tourner si tu mets pas ce fameux but et que ça va au tir au but. Mais globalement, tu dois gagner 3-4-0 ce match. Et c'est plaisant de se dire que tu as autant de facilité face au deuxième de Ligue 1.
J'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps. La première mi-temps, effectivement, on le contrôle.
Beaucoup plus débridé, ça a peut-être moins plu à Luis Enrique.
On a eu aussi 10 minutes difficiles. Monaco a eu des grosses occasions à ce moment-là. Mais sinon, tout le reste du match, on était bien. Deuxième mi-temps, vraiment pas mal. Et encore une fois, on a un très grand gardien en face. Je pense que sinon, le match, il est plié avant la dernière minute, clairement. Mais c'est pas la première fois, d'ailleurs. On fait quand même souvent les mêmes analyses. On a beaucoup d'occasions. Les gardiens en face sortent souvent un grand match contre nous. Et on a quand même ce défaut d'efficacité qui est. C'est pas toujours le gardien en face, c'est les attaquants qui sont pas assez précis.
On permet aux gardiens d'être bons.
C'est ça, on les fait
briller. Quand tu regardes les occasions, c'est quand même des frappes qui sont parfois importantes, mais qui sont globalement sur le gardien ou accessibles. Il a été très bon, Philippe Kohn, mais on lui permet d'être très bon.
Il y en a 2-3 impressionnants.
Voilà. On aime bien taper les poteaux aussi.
Les autres,
on a aussi toujours un ou deux poteaux à chaque match.
Vous lui accordez quelle valeur à ce Trophée des Champions? C'est un vrai titre ou c'était surtout une manière de bien lancer l'année?
Juste par rapport à ça, c'est le 11e qu'on gagne sur les 12 derniers, donc on va dire que c'est un classique. Mais par exemple, un joueur comme Désiré Doué, son premier trophée, c'est effectivement pour le PSG, on va dire, c'est un peu la routine de gagner le Trophée des Champions. Mais pour Pacho, par exemple, qui est arrivé cet été, c'est son premier titre avec le PSG, c'est pas anodin.
J'ai eu la sensation qu'il avait un petit peu plus de valeur qu'en début de saison, où c'est presque un match de préparation. Là, ça venait aussi récompenser peut-être une bonne première partie de
saison. Ouais, bah il y a deux choses. Pour moi, tu mesures aussi la valeur à la nature des réactions après le match. Quand tu vois la joie du banc de touche, la joie du staff, la joie des joueurs, avec une vraie communion entre tous les joueurs, le staff, etc. Bon, tu vois que c'est important pour
ça
le groupe.
Ça révèle aussi un état d'esprit, voilà. Celui de la gagne, une
exactement,
détermination.
Exactement. Et je pense que ce groupe est vraiment uni et fédéré, et ça, c'est une bonne chose.
Et puis c'était important de garder aussi parce que bon, on jouait ce match au Qatar quand même. Donc pour le Qatar, c'est quand même vraiment important que le PSG gagne. Ça aurait pas été terrible.
Par contre, le bémol, c'est qu'il se joue, à 17h30. En même temps, par exemple, en France que City-Liverpool.
Ouais.
Je crois en même temps aussi que des équipes comme Strasbourg, comme Lille. Et en fait, normalement,
ça, non, c'était pas en Ligue 1, ils jouaient pas.
Oui, il y avait des matchs à 15h.
Oui, en fait,
c'est vrai que c'était en même temps que City-Manchester, Liverpool-Manchester.
Tu es supporter de Nantes, de Rennes. C'est peut-être c'est la finale que tu as envie de voir, que tu as envie de voir en prime time. Et en fait, elle est pas assez mise en avant. Et globalement, je trouve que ça atténue un peu la portée.
Le problème de ce trophée des champions par rapport justement peut-être à des super coupes en Italie, en Espagne, c'est que clairement, si on n'est ni supporter du PSG ni supporter de Monaco, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, clairement, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas regardé.
Est un petit peu dévalorisé dans la manière dont il a été mis en scène, c'est vrai. Le MVP de cette rencontre, bien évidemment, c'est le seul buteur de ce trophée des champions, Ousmane Dembélé, positionné alors donc hier dans un rôle axial de faux numéro 9. Plusieurs occasions avant de marquer, mais il a quand même inscrit son 4e but sur les 4 derniers matchs. Messieurs, c'est pas anecdotique quand on parle de Dembélé.
Non, c'est un joueur qui marque beaucoup sur la scène nationale, moins sur la scène européenne. Mmh. Je crois qu'il a mis 0 but sa saison en Coupe d'Europe.
Ouais.
C'est un joueur qui, on le sait, fonctionne clairement à la confiance. On peut travailler la finition autant qu'on veut, surtout avec Dembélé, qui plus est. C'est quelqu'un qui, en confiance...
Alors, petite question, est-ce que ce rôle-là lui convient mieux dans la finition, même si le but qu'il marque, il le met côté droit
Dans le jeu, je le trouve bien. Après, encore une fois, avant de mettre son but, déjà, j'ai eu peur qu'il le rate, parce qu'il la croise pas mal. Franchement, il prend pas une grosse marge, on va dire. Non, mais il rate encore deux frappes. Il se les crée, il rate deux actions avant de mettre son troisième but. Il lui en faut toujours 3-4 avant de marquer. Quand il marque. Donc ça, c'est quand même un peu problématique pour un joueur qui joue en pointe, même si c'est pas son poste à la base. Mais voilà, on va pas le changer. Il marque plus qu'avant, c'est déjà
il
pas mal. Après, il reste quand même un joueur.
Les saisons les plus abouties. Si Jordan Le Sueur peut nous remettre la stat, 9 buts à mi-saison, son deuxième meilleur total en carrière après celui de la saison de ses débuts à Rennes.
Après, il est moins blessé aussi.
Oui, qu'est-ce qu'il doit ou peut viser Ousmane Dembélé en fin de saison ? Après, on l'entendra sur ce pari qui s'est fixé en fin de saison.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'atout numéro un offensif du PSG. Et au-delà de la dimension arithmétique et des chiffres que tu montres à l'antenne, il doit permettre au PSG, il doit être décisif dans les grands matchs. Mmh. Moi, j'attends plus Dembélé qui soit dynamiteur contre Manchester City, par exemple, ou à Stuttgart.
On verra après son bilan en Ligue des Champions sur la première partie.
Moi, j'attends ça. Qu'il mette 13 ou 20 buts, en Ligue 1, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Par contre, qu'il soit décisif en Ligue des Champions, ça, c'est important.
On va l'écouter, Alexandre, sur ce rendement offensif et sur le pari, le défi qu'il s'est lancé avec des amis, avec un petit lot à la clé à la fin de la saison.
Je l'ai dit en début de saison que j'allais marquer quelques buts cette saison. Je me suis fait un défi avec mes amis, mais ça, je ne vais pas vous le dire.
Allez.
Non. Non. Non, je ne veux pas le dire. Il y a quelque chose à gagner en plus.
C'est quoi à gagner ?
Des Patek et des Rolex.
Bon, j'ai découvert ce qu'était une Patek, donc c'est la version haut de gamme Rolex. Bon, c'est marrant et ça motive forcément.
Ouais, et
ce
de ce que je sais, il a plutôt une bonne relation avec Lucien Riquet. Il y a eu ce qui s'est passé en début
Arsenal,
de saison.
Quand même.
Oui, non, mais il y a eu ce qui s'est passé en début de saison, mais ça se passe bien entre les deux. Voilà, je pense que Dembélé, il sait d'où il vient. C'était très compliqué à Barcelone. Depuis qu'il est au PSG, il est épargné, comme tu l'as dit, par les blessures. Il est titulaire indiscutable. C'est l'atout numéro un offensif. Il est considéré. Je pense qu'il se retrouve aussi dans sa paire avec Hakimi. Voilà, moi je pense que c'est quelqu'un d'heureux et ça se voit sur le terrain.
Alors, sur la Ligue des Champions, le bilan d'Ousmane Dembélé, Alexandre, sur la première partie de saison, 4 matchs, aucun but, une passe décisive, des ratés, on s'en souvient, face
énorme
au PSV, et puis surtout, tu le rappelais, la mise à l'écart contre Arsenal, le rouge face au Bayern, la suspension contre Salzbourg, ça c'est quand même un bilan en contraste de ce que l'on vient d'évoquer.
Clairement.
Indigne.
Ah bah clairement, là, lui contre City va jouer gros parce que effectivement c'est bien de marquer en championnat, trophée des champions, ok, mais à un moment c'est en Ligue des Champions qu'il va falloir faire la différence, donc on l'attend vraiment contre City. Voilà, j'espère juste qu'il lui faudra pas à chaque fois 3 ou 4, 5 ou 4 avant de marquer.
Parce que City il y aura peut-être 24 ou 28.
Mais il est assez imprévisible quand même, si on se souvient contre Barcelone l'année dernière, il met deux buts absolument lunaires limite.
Souvent il met des buts plus difficiles, parfois il met des buts plus difficiles et il rate des immanquables, donc c'est. Voilà.
Il doit une revanche, justement, au PSG en Ligue des Champions, face à City dans deux semaines, face à Stuttgart en tuyau.
Oui, cette saison, clairement, il doit répondre, il doit être à la hauteur du rendez-vous. Il reste sur quand même des grosses déceptions en Ligue des Champions. Son carton rouge à Arsenal, à Munich, il est mal passé. Le PSG s'en sort bien à Salzbourg sans lui. Voilà, il doit quand même. Je trouve qu'il a perdu un peu en stature depuis cet épisode-là. Et je trouve qu'il doit, comme je te dis tout à l'heure, porter cette équipe en Coupe d'Europe.
Mais sur ce plateau, depuis le début de saison, on se demande est-ce que c'est le facteur X ? Est-ce que c'est le leader offensif ?
Bah oui.
Ousmane Dembélé, on le voit en Ligue 1, mais en Ligue des Champions.
Mais il doit être.
C'est maintenant ou jamais qu'il doit prouver ce statut-là.
Clairement. Mais de toute façon, voilà, Dembélé, effectivement, il marque plus, mais on attend encore plus de lui parce qu'on voit qu'il est capable de faire plein de choses. Mais il y a un moment, il faut qu'il soit plus efficace.
Ouais, et puis sur les derniers matchs, la triplette offensive qui se confirme, c'est Lee, Dembélé, Doué. Tu peux pas mettre sur la responsabilité d'attaque sur un match.
Le seul qui paraît indispensable aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé.
Ouais, mais alors, moi, justement, homme du match Dembélé hier, moi, je l'aurais donné à Doué, personnellement. J'ai beaucoup aimé son match. Franchement, dans ses prises de balle, il me rappelle un peu Neymar parfois.
Il est sur une belle pente, on va en reparler après la petite coupe de pub. On revient dans quelques instants pour évoquer justement le reste de l'animation offensive. Ça ressemble quand même à un petit chantier à deux semaines de la Ligue des Champions. À tout de suite. De retour dans Cop Paris, ça continue de débattre pendant la pub avec mes deux chroniqueurs du soir, Alexandre Marois et Clément Pernia. On est déjà à deux semaines, on parlait de ça, de ce très attendu PSG Manchester City. Tous les joueurs l'ont déjà en tête, hein. Ousmane Dembélé le révélait hier après la victoire face à Monaco. En attendant, on a du mal à imaginer, à deviner quelle sera l'attaque parisienne dans 15 jours face aux Citizens. Regardez le 11 de départ hier de Luis Enrique avec un trio Doué, Dembélé dans l'axe et Kanginli en attaque. Même attaque que contre Lens juste avant la trêve. On se disait pendant la pub, on est très loin de ce que l'on imaginait en début de saison, du trio que l'on pouvait imaginer en attaque en début de saison. Bah,
surtout que effectivement Barcola a fait un énorme début de saison, donc on pensait vraiment que lui c'était des trois devant, c'était limite devenu le numéro 1. Et puis Dembélé quand même, malgré ses petits soucis dont on a parlé, qui reste quand même un peu indéboulonnable. Et c'est vrai qu'en fait, là on a Doué qui monte vraiment en puissance. Ouais. À l'inverse, Barcola qui est un peu dans un creux là depuis un mois et demi. Ramos, on se rend compte quand même qu'Enrique l'aime beaucoup en tant que joker. Ouais. Il aime bien le faire rentrer en cours de jeu, comme l'année dernière d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en fait, il est presque plus efficace quand il rentre en cours de jeu que quand il est titulaire. Je parle au niveau statistique. Après, voilà, moi j'adore ce joueur. Mais donc, moi personnellement, je pense que contre City, il va remettre le même trio qu'hier.
Est-ce que Luis Enrique, Clément, sait où il va concernant ce casting, ou alors, à contrario, il est en train d'atteindre une sorte d'objectif en termes de polyvalence, de rotation?
Ah oui, moi,
tout le monde peut jouer à n'importe quel poste.
Moi, je pense qu'il sait exactement où il va, que les choses se passent et se déroulent exactement comme lui le souhaite, à savoir, comme il le dit si bien, prévisible pour lui et imprévisible pour l'adversaire, à savoir que ses joueurs, à 2 heures avant le match, ne savent pas qui est titulaire. À chaque fois, il annonce la composition 2 heures avant le match. Donc moi, j'aime bien cette... On a trop reproché au PSG ce côté statutaire, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, notamment sous Galtier, Pochettino, même les années d'avant, pour aujourd'hui reprocher à un coach de faire tourner, de laisser la place au mérite. Voilà, aujourd'hui, Doué est meilleur que Barcola, bah Doué joue. Mais Barcola, je pense que Barcola, il n'est pas enterré. Barcola,
c'est très visible pour les joueurs aussi. Hein, ouais, c'est une question qu'on se pose forcément.
Pour les joueurs, je ne pense pas, parce que je pense qu'il leur parle quand même beaucoup et on voit quand même des tendances. Après, c'est vrai que pour les adversaires du PSG, c'est difficile, parce que quand tu prépares un match contre le PSG, tu sais pas quel 11 va être aligné.
Doué ou Dembélé débarque dans la...
Il y a ça, mais il y a ça déjà sur les placements, parce qu'il y a les 11 joueurs et après comment ils sont placés. Et après, on parlait de l'attaque, mais le milieu, c'est pareil. En gros, ils sont 4 pour 3 places. On sait jamais.
Il y en a deux qui jouent. Il y a Vitinha et Neves.
Franchement, au début de saison, oui, mais de moins en moins.
Un petit peu moins mouvant.
Vitinha, c'est celui qui bouge le moins.
Vitinha et Neves, ça reste. Globalement, c'est entre Ruiz et Zaïre et Emery.
Le plus souvent, oui. Mais il y a eu des moments où Vitinha, il a
sur le banc. Il n'arrête pas de répéter qu'entre la feuille de match, le 11 et ce qui se passe sur le terrain, il y a un monde d'écart.
Mais après, c'est pareil. Entre Vitinha et Ruiz, c'est le plus souvent au milieu de terrain qui joue. Mais par contre, un coup, il y en a qui joue au 6, un coup, il joue à gauche. En fait, il aime bien les faire changer de
poste. Il y a quand même un
milieu.
Joueur qui concentre pas mal d'interrogations et aussi d'attentes, c'est Gonçalo Ramos, qui depuis son retour a donc disputé 8 matchs, seulement 3 titulaires. Son bilan quand même, 4 buts et une passe décisive, mais cantonné au banc depuis maintenant 4 matchs. Est-ce que vous êtes, au choix, étonné, excédé ou en phase avec Luis Enrique sur ce traitement de Gonçalo Ramos?
Moi, le temps que ça marche, je suis plutôt en phase avec Luis Enrique. Je suis pas excédé parce que on parle d'un joueur qui a été blessé 3 mois, donc il y a peut-être aussi une gestion physique.
Alors moi, il y a un truc qui m'étonne, pardon. Sur les 4 premiers matchs, je crois qu'il y en a 3 titulaires.
Ouais, il a fait jouer tout de suite.
Et au moment où on se dit qu'il a retrouvé un petit peu de rythme, boum, remplaçant.
Ouais,
c'est quoi la logique là-dedans?
Bah lui, il a sa propre logique. On est personne dans la tête d'Enrique. Ouais. Je pense il a ses schémas en tête. Après, c'est vrai que moi, j'étais étonné qu'il le refasse beaucoup jouer tout de suite titulaire.
Oui.
Et là, effectivement, je pense qu'il l'aime bien en tant que joker. Je crois que maintenant, c'est quelque chose
d'assez clair. Et l'émergence aussi d'un Désiré Doué.
Et en fait, surtout sur les gros. En fonction de l'adversaire, c'est contre les gros adversaires, les grosses équipes. Il aime bien Dembélé en Fonum, donc contre Monaco, contre Marseille, contre Lyon, ce genre de match-là. Je pense que c'est l'option qu'il prendra. En Ligue des Champions aussi, du coup, je pense. Et contre des équipes un petit peu supposées, un peu plus faibles, de milieu de classement, etc. Là, je pense qu'on verra plus souvent Ramos titulaire.
C'est aussi un joueur clinique qui peut faire très mal à une équipe fatiguée. Le PSG fait beaucoup courir.
Ouais, on l'a vu à Lens.
Voilà, avec des joueurs
et
de ballon.
C'est 4 buts, on a 4 buts de renard. Hein. Voilà. C'est clinique comme
Et je pense que c'est aussi un argument en la faveur de Luis Enrique. Ça peut bouger, hein, ça peut changer. Il l'avait mis titulaire contre Dortmund au match retour l'année dernière, en demi-finale.
Ouais, pas trop
je pense que, alors je ne sais pas si c'est ta question tout de suite, mais contre Manchester City, où la dimension athlétique, notamment sur les coups de pied arrêtés, va jouer énormément, peut-être qu'il va prendre la décision de...
Et moi, par exemple...
Qu'on écoute Luis Enrique, justement, sur Gonçalo Ramos, lorsque la question lui a été posée, est-ce qu'il mérite un autre traitement ou un petit peu plus de temps de jeu? On l'écoute.
C'est toujours la même histoire. Vous cherchez à remuer la boue et moi, je veux me concentrer sur la progression de mon équipe à chaque match, quels que soient les joueurs alignés. Cela fait des années que je sais comment marche ce petit jeu.
L'amabilité légendaire. Juste, c'est un problème de Gonçalo Ramos ou c'est un problème plus global avec le numéro 9?
Non, par rapport à ce que je disais, moi je pense par exemple qu'il va le mettre sur le banc contre City et qu'il le mettra titulaire contre Stuttgart. C'est mon pronostic. C'est-à-dire que selon l'adversaire, je pense que c'est ça qui
dicte ses choix. Il le fait aussi, soi-disant, avec les gardiens, de choisir le gardien par rapport à l'adversaire. Mmh. C'est aussi quelque chose qui se fait.
Sur les gardiens, j'y crois un peu moins.
Dans sa philosophie, on a bien compris qu'il était moins adepte de ce type de profil de vrai numéro 9.
On l'a vu avec la sélection espagnole.
Bon, heureusement pour Gonçalo Ramos, il est plutôt habile avec le ballon, dans le jeu de rang remise, dans le positionnement, et ça joue en sa faveur, il peut jouer ce genre de match. Mais c'est vrai que je pense qu'il privilégiera toujours un numéro 10, un Désiré Doué, un Barcola, un Lee Kang-in, que Gonzalo Ramos, pour l'instant, en tout cas.
Un autre joueur qui ajoute un petit peu quand même à la confusion ambiante, on l'a évoqué rapidement, c'est Bradley Barcola, remplaçant sur 3 des 4 derniers matchs. Ça fallait quand même l'imaginer il y a quelques semaines.
Et des entrées assez moyennes.
Très moyennes, il ne l'a plus marqué depuis novembre. Pour lui, le déclassement apparaît un petit peu plus logique. C'est pas étonnant de le retrouver sur le banc en ce moment.
Bah clairement, depuis un mois là, Doué est meilleur. Et il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Lee. Lee Kang-in, moi je trouve, il apporte notamment quelque chose sur les coups de pied arrêtés. Il tire très bien les coups de pied arrêtés.
Il y a eu des combinaisons.
Et c'est clairement pas un point fort du PSG ces dernières années. Et si ça peut devenir, si on peut se créer des occasions et marquer quelques buts sur coups de pied arrêtés, ça fera pas de mal.
Il avait, pour revenir sur Barcola, il avait démarré trop fort. Je crois que c'est 10 buts lors des 11 premières journées. On en attendait trop de Bradley Barcola.
Oui, c'est un joueur qui a été très vite exposé. Tout de suite, très tôt. Il a même pas, je crois qu'il a une saison et demie en haut niveau. Voilà.
Et puis il faut digérer l'équipe de France. Le nouveau Mbappé,
Médiatisation.
Il y a beaucoup de choses. Voilà, il a été critiqué, il a été exposé.
Les adversaires commencent à connaître.
Voilà, il a. C'est plutôt un joueur, on va dire, vif, rapide, de transition. C'est pas un dribbleur pur, Barcola. Ouais. Donc ses dribbles, qui passaient pendant un an, commencent à être lisibles. Après, c'est un joueur. Alors, Luis Enrique est fan de Bradley Barcola. C'est son petit chouchou.
Oui, là, il...
Et je comprends parce que quand j'ai notamment le match à Lens en tête, où en fait c'est un joueur qui défend beaucoup, qui travaille énormément pour l'équipe. Voilà, il est pas avare d'efforts et je pense qu'il rejouera très vite, très bientôt Barcola parce que voilà, Enrique aime bien le turnover, aime bien laisser sa chance à la d'autres. Désiré Doué a été sur le banc pendant 6 mois. Bon, bah là il joue un peu.
Il y a pas de situation comme il le dit souvent insolvable
dans
cette équipe-là.
Non, au contraire, moi je pense que Barcola.
Mais
Barcola, moi je serais pas surpris par exemple qu'il joue contre Manchester.
C'est ce que j'allais dire. Moi, autant je pense que Ramos sera sur le banc, autant je pense que Barcola. Débuter,
trajectoire diamétralement opposée. Désiré Doué, donc lui titulaire sur les 4 derniers matchs, auteur de 2 buts et 2 passes décisives depuis Salzbourg. Ça va très vite parce qu'on a la sensation qu'aujourd'hui c'est devenu à minima une alternative, une concurrence à Barcola, voire un petit peu plus parce qu'il peut jouer à plusieurs postes. Désiré Doué,
il peut le mettre à gauche effectivement à la place de Barcola, mais il peut aussi le mettre en faux neuf comme il adore faire. Et moi je trouve que dans ses prises de balle, dans sa vision du jeu, ça commence à être vraiment pas mal. Sur les premiers matchs, je le trouvais vraiment en dedans, c'est-à-dire qu'il rentrait, on sentait.
Non, mais il avait le syndrome du faut que je mette.
Voilà.
Il avait le syndrome de vouloir marquer absolument très tôt. Mais
il manquait de repères, je trouve, un petit peu dans le collectif, etc. Et là, on sent qu'il commence vraiment à s'intégrer.
Exactement. Lui, tu vois, je trouve que c'est vraiment l'exemple de la bonne gestion du staff.
Exactement.
Il arrive à 19 ans pour 60 millions d'euros au PSG. On s'en rend pas compte, nous.
Comment on fait pour continuer à bien le gérer? Parce que là, ça s'emballe un petit peu. Il est quasiment titulaire.
Là, ça s'emballe. Il est titulaire parce qu'il est bon.
Il va le remettre sur le banc, là.
Il va
continuer
à être titulaire quand. Tant qu'il sera bon, je pense. Quand il aura un moment de moins bien, il ressortira. Puis, je pense qu'il va être géré comme ça. Mais il a 19 ans. Je pense qu'il faut peut-être aller moins vite qu'avec Barcola. Là, il y a Barcola, il n'y avait pas, d'alternative l'année dernière, ou moins en tout cas. Là, cette année, bon, il y a cette alternative à gauche. Donc, je pense que Doué, pour l'instant, est plutôt bien géré. Mais encore une fois, il ne faut pas le cramer, quoi.
Ouais. Un petit mot pour terminer cette revue d'effectifs. Tu en parlais sur Kanginli. Alors, lui, il est très régulièrement titulaire depuis quelques semaines. Il a participé à tous les matchs depuis le début de saison, titulaire ou remplaçant. Tu le disais, c'est un joueur qu'apprécie tout particulièrement Luis Enrique parce que très polyvalent, très technique. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette petite touche sur les coups de pied arrêtés.
Ouais, ça, c'est un vrai plus. Mais au-delà de ça, je trouve qu'effectivement, il n'est jamais mauvais. Il n'est pas forcément extraordinaire. Jamais à travers.
C'est un peu le joueur middle, bon soldat.
Je suis en profond désaccord là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui a trop de lacunes, qui manque énormément d'impact physique, et pour jouer à droite et pour jouer dans les trois du milieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes.
Il le fait plus trop jouer au milieu.
Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui justement prônent cette idée-là. Moi, je suis pas d'accord.
Je te trouve dur quand même.
Il apporte rien en fait. En Ligue des Champions, ça a été trop pauvre. Hein. Tout ce qu'on a vu cette saison, ça a été.
Alors peut-être effectivement. Pauvre, je suis gentil, adversaires contre Arsenal.
Je suis gentil. Pour moi, ça contraste aussi entre Ligue 1, je crois. Il a 6 buts
C'est un joueur corail de Ligue 1 et j'ai rien contre lui. Je veux pas.
C'est le joueur. On aime beaucoup ce
travailleur.
Après, et Luis Enrique.
Et puis il y a Hakimi.
Tu parlais de chouchou.
On a Hakimi côté droit.
Voilà. Lui, c'est un chouchou.
Et puis surtout, on a Hakimi côté droit qui fait une saison extraordinaire d'ailleurs et qui se projette énormément. Et c'est vrai que Lee fait beaucoup de compensations. C'est un joueur qui est quand même très intelligent tactiquement. Après, effectivement, il est peut-être un petit peu limité.
Mais il se fait bouger. Il part d'une grosse marge de progression. Il en parlait il y a quelques semaines. C'est quoi sa marge de progression?
Je suis un peu moins
5 kilos de muscle déjà parce qu'il s'est bougé sur les duels, c'est terrifiant. Dans les grands rendez-vous, pour moi, c'est beaucoup trop léger. Il a une bonne patte gauche, il tire bien les coups de pied arrêtés.
Ouais, mais ça, c'est un vrai.
Mais même ses frappes, elles sont trop léger. Franchement, il devrait être plus décisif.
Là, je te trouve dur. Il a quand même une bonne frappe pied gauche.
Il n'y en a aucune qui rentre.
Il y en a quelques-unes. Sur les 6 buts, je pense qu'il y a 2-3 frappes en dehors surface.
Pour moi, c'est insuffisant. En tout cas, c'est un bon niveau Ligue 1, mais c'est pas ce qu'on attend, en tout cas pas pour être titulaire au PSG. Ouais.
Pour résumer ce chantier, est-ce que c'est un chantier ou un puzzle qu'est en train de mettre en place Luis Enrique quand on vient d'évoquer tout cela?
On est plus sur le puzzle. Ouais. On était au chantier au début, et là maintenant on est sur le puzzle. Ouais. Il a quand même bien avancé. D'ailleurs, même tout ce qu'il voulait.
Pleine confiance à Luis Enrique sur ce chantier ou puzzle offensif.
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les joueurs interchangeables qui jouent à plein de postes différents.
Une ribambelle de matchs sur les. Ok, le jeu, tout ça, pas de problème, mais on se fait souvent les mêmes constats.
Ouais, moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est qu'en fait, je trouve que les matchs se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours beaucoup d'occasions, on n'en marque pas beaucoup, on a des défauts d'efficacité.
Je me fais l'avocat du diable, mais ce PSG avec Gonçalo Ramos titulaire plus souvent, n'est-il pas un autre PSG?
Je sais pas. Fiction. En tout cas, le juge de paix, ce sera avec des champions.
Vous l'avez défloré, PSG Manchester City, foot fiction, c'est demain qui joue en attaque?
Bon, alors là,
c'est les trois d'hier.
Chaque heure, je change d'avis, moi.
Ouais.
Mais alors, tu sais quoi, je pense que c'est pas exclu qu'ils mettent comme à Munich les quatre milieux. Avec un Joao Neves en faux neuf et Doué Dembélé sur les côtés.
Non, mais ça, je pense pas. Je pense qu'on aura soit les trois d'hier ou Barcola qui peut rentrer. Ramos, tu crois pas? Je pense que Ramos.
Pour moi, Lee, c'est impossible. Pour moi, il peut pas mettre Lee sur un match comme ça.
Il peut sortir Lee et mettre Dembélé à droite, Doué en faux neuf et Barcola à gauche. Moi, c'est ça que je ferais, je crois.
Un peu plus aussi.
Bon, on verra dans deux semaines.
Personne ne met Ramos, t'as vu?
Non, Ramos, vraiment, je le pense. Joker sur ce match-là est titulaire contre Stuttgart.
Petite coupure pub et on va continuer de parler de la ligne offensive. Toujours un petit peu de fiction. Le PSG doit-il tout faire dans les mois à venir pour recruter Mohamed Salah? On en parle dans quelques instants. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Alexandre Marois et Clément Pernia. Le mercato est donc ouvert, messieurs, depuis mercredi dernier. Pas grand-chose à signaler pour l'instant du côté du PSG. Les arrivées étant, semble-t-il, conditionnées au départ, notamment de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. La grosse info, si c'en est une, est tombée donc vendredi chez nos confrères de Sky Sports en Angleterre. Mohamed Salah, peut-être certainement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, a indiqué qu'il disputait sa dernière saison avec Liverpool. On écoute l'Égyptien et on leur parle juste après.
Au moment où l'on parle, oui, ce sont mes 6 derniers mois avec Liverpool. Il n'y a rien de nouveau sur la prolongation. Nous sommes très loin d'un accord. Donc il faut juste attendre et voir.
Bon, déjà, il faut un petit peu pondérer quand même cette déclaration. Oui. Il ne dit pas qu'il va quitter Liverpool. Est-ce que vous pensez qu'il va ou qu'il veut quitter Liverpool, Mohamed Salah?
Veut, je pense pas. Ce serait étrange.
Challenge à la clé.
Mais tout se passe bien pour lui à Liverpool, c'est son club. Est-ce qu'il va quitter Oui, je pense qu'il va quitter Liverpool.
Ouais.
Je pense que c'est ce genre de club qui savent dire au revoir au bon moment.
8e saison, je crois.
Comme le Real Madrid, comme d'autres grands clubs. Je crois que c'est sa 9e. Là, ils vont être champions d'Angleterre cette saison, donc il partira sur un titre de champion. Voilà. Après, est-ce que le PSG doit le prendre? C'est une bonne question. Voilà. Je ne sais pas si tu veux qu'on y vienne tout de suite.
Moi, ça dépend à quelles conditions. Moi, pour la question, ça dépend à quelles conditions. En fait, c'est le tout faire qui me pose un peu.
Alors, est-ce qu'on peut commencer par l'aspect financier? Parce que Mohamed Salah, aujourd'hui, c'est plus de 20 millions d'euros par an. Il en veut un petit peu plus. Mais ce qu'il veut surtout, c'est un contrat de 3 ans que Liverpool ne veut pas lui donner. Parce que 32 ans, 33 ans en juin prochain. Est-ce que, du point de vue déjà financier, c'est raisonnable, rationnel de donner autant à Mohamed Salah?
Bah, disons qu'on avait, on avait trop. On avait les trois stars, on avait Messi, Neymar, Mbappé, ça n'allait pas. Ils sont tous partis. Donc là, on n'a plus personne. Enfin, on a un très bon collectif, mais on n'a plus de grandes stars. Mmh. Donc on peut en avoir une. Et si, quitte à en avoir une, bah, à date, Salah, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Voilà. Moi, ce qui me pose. Ce qui pourrait me poser problème, c'est le côté tout lui donner. Il ne faut pas se mettre à quatre pattes comme on l'a fait pour les autres.
Une logique rationnelle de tout donner.
Si c'est un peu rationnel qu'on lui fait, bah évidemment,
il Liverpool ne veut pas lui donner 3 ans. Aujourd'hui, le Real, quand il prolonge des joueurs comme ça, Toni Kroos, Luka Modric, c'est un an.
On peut faire 2 ans plus une option.
Parce que tu n'as plus de garantie à cet âge-là. Combien de joueurs on a vu avec des prestations inégales à cet âge-là? Quel Salah on aura? On aura le Salah de cette année ou le Salah de l'année dernière?
Là, à date, juste, on est d'accord qu'on parle du meilleur joueur du monde.
Oui, mais il marche sur l'eau, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il marche sur l'eau. Donc
après, si Jordan Le Sueur peut nous les envoyer,
c'est un joueur qui a quand même une hygiène.
Elles sont ahurissantes.
C'est un joueur qui a une hygiène de vie, je pense, qui est quand même vraiment pas mal. Donc moi, je pense qu'il peut encore faire 2-3 très belles
saisons. Mais est-ce qu'il va pas venir en pré-retraite à Paris?
C'est ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'il faut pas tout lui donner et se mettre à quatre pattes. Pour moi, c'est le truc. S'il vient en des bonnes conditions, oui, un grand oui évidemment. Si Luis Enrique également, bien sûr, veut l'intégrer, le veut,
c'est ça.
Un objectif, c'est un grand oui évidemment. Si par contre, c'est pour refaire les erreurs du passé, c'est non.
S'il vient pour apporter son expérience, pour apporter son savoir-faire, pour être le grand frère du vestiaire, pour apporter aussi son talent, évidemment, sa finition, etc. Oui, bien sûr. Si c'est pour avoir une star dans le vestiaire qui ne correspond pas aux...
Attends, on entend beaucoup, je me fais l'avocat du diable depuis le début de saison, que toutes les stars sont parties, que le PSG manque au moins, comme tu le disais,
il manque
d'une star.
Et puis il y a un joueur qui met des buts, en fait, hein, qui peut mettre en but dans la saison. Là.
Il a quel âge, ça, là?
Il a 32, il va avoir
32. Voilà, une star de 27 ans, c'est pas possible, nous, au PSG. On est obligé de prendre
Gyökeres. Oui, Lamine Yamal, Vinicius. C'est encore plus jeune,
C'est ça le problème. C'est que tu vas finir un contrat à un mec jusqu'à ses 36 ans. Bon, ça là, on n'est pas sûr. Hein. Il a quand même fait une saison dernière moyenne. Cette année, il revient bien, mais il revient bien dans ce Liverpool-là qui fonctionne à merveille. Mais
justement,
un gros milieu
c'est
derrière lui.
La bonne année pour faire venir ça là aussi. C'est-à-dire que là, pour la première fois depuis 2-3 ans, on a vraiment l'impression qu'il y a un vrai collectif au PSG. On a des lacunes, on l'a dit, hein, dans la finition, dans les buts, etc. Mais on a un vrai collectif, ça c'est indéniable.
C'est pas le risque justement de détruire d'abîmer un petit peu cet équilibre.
Va faire rentrer un joueur dans un collectif qui tourne bien, pour moi c'est faisable. Pas refaire 2-3 stars, mais une star qui en plus, je trouve, moi, c'est un joueur, même s'il a été un peu taxé d'individualiste, etc. Par le passé.
J'allais y venir, mais je trouve que la relation avec Sadio Mané est très très compliquée.
Voilà, avec Mané c'est compliqué. Mais je trouve que
Bobby Firmino, on a parlé dans un livre il y a un an. En expliquant que Salah, il cassait les pieds un petit peu à tout le monde,
parce que
Jurgen Klopp a tapé du poing sur la table et que ça s'est un petit peu aplani derrière.
Là, c'est beaucoup mieux. Avec Slot, il y a un vrai collectif à Liverpool. Donc pourquoi pas se dire qu'il pourrait s'intégrer dans ce collectif du PSG.
Alors, est-ce qu'il serait, le terme toujours à la mode, Luis Enrique compatible, Mohamed Salah?
Comme ça, je dirais non. Par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que Enrique, on le sait, il veut être le boss du vestiaire.
C'est ça, parce qu'il
n'aime pas les égos.
Il y a le caractère de Mohamed Salah, mais il y a aussi celui de Luis Enrique,
évidemment,
qui a eu des problèmes quasiment avec toutes les stars qu'il a managées.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit Salah, il va arriver de Liverpool, une immense institution. Il a des codes, il va arriver dans un club comme le PSG qui est pas au même niveau que Liverpool, avec un coach qui a des principes très très stricts, qui va vouloir lui imposer. Il va y avoir une guerre d'ego, un peu une bataille. Moi, je suis pas sûr que ce soit Enrique compatible, et je suis pas sûr par conséquent que le PSG soit vraiment sur cette piste. Hein, attention.
Alors
il y a juste un argument qui pourrait aller dans ce sens, c'est que historiquement, depuis que les Qataris sont là, ils ont toujours voulu avoir ce grand joueur de culture arabe qui vient d'un pays arabe.
Et le président Nasser Al Khelaifi est relativement proche de Mohamed Salah. Début décembre, il a dit c'était absolument pas une piste qu'on envisage. Poker menteur.
Si gratuitement, il peut arriver comme Messi à l'époque, ils iront.
Luis Enrique est compatible, PSG compatible, Mohamed Salah pour refermer le...
Oui, moi je pense que s'il y a une star, c'est compatible. Si on commence à l'additionner, là, ça détruit le collectif. Mais juste Salah, oui, bien sûr. Je pense qu'un grand joueur comme ça, il est compatible avec
n'importe qui. Pour résumer, toi c'est oui et toi c'est non.
Et moi c'est oui, mais pas à tout prix.
Moi c'est j'en sais rien. Moi c'est je sais pas.
On voit venir.
Oui, je sais pas.
Le résultat du sondage, on va voir ce qu'en pense la communauté COP Paris. Est-ce que le PSG doit faire all-in, doit tout faire pour recruter Mohamed Salah? Bah, c'est partagé, c'est un petit oui.
Les gens sont d'accord avec moi. C'est surtout le côté all-in qui pose question. Parce que si on avait juste mis est-ce que Salah vient à Paris, vous êtes pour ou contre, les gens auraient
dit bien sûr.
Pour. Voilà, c'est le all-in. Il faut faire attention à ce qu'on fait, pas faire un refaire les erreurs du passé.
Autre dossier, un petit peu dans la même veine, le PSG doit-il tout faire pour prolonger Nuno Mendes? Là aussi, selon nos confrères d'RMC Sport, les discussions sont au point mort concernant la prolongation. Le joueur a refusé toutes les propositions, estimant que le salaire ne correspondait pas à son statut. Est-ce que le PSG doit tout faire pour conserver Nuno Mendes?
Alors, pour un joueur normal, dans un contexte normal au PSG, je te dirais non. Mais compte tenu du salaire et l'anomalie salariale qu'il vit depuis des mois et des années.
Il est très bas, Nuno Mendes.
Il est très très bas, il est 25-26e. Il est très bas, on peut le dire.
Oui, mais je veux dire dans le microcosme du foot.
Compte tenu du marché des arrières-gauches.
Il est 5 fois moins payé, pour à titre d'information, qu'un Skriniar ou qu'un Asensio.
Oui, et compte tenu de son talent, de son âge et du marché des arrières-gauches.
Et du poste.
Je pense que le PSG, doit absolument le garder. Encore une fois, c'est assez exceptionnel ce que je dis parce que j'aime pas dire il faut tout faire, il faut se coucher devant un joueur. Mais là, sur ce cas de figure-là, le PSG a vraiment intérêt à le garder.
Alors, je veux dire juste deux choses par rapport aux comparaisons de salaire. Effectivement, après, tu disais Skriniar, Asensio, c'est des joueurs qui sont venus en fin de contrat. Donc, forcément, ils ont négocié des gros salaires.
Avec des statuts.
Alors, moi, je vais un peu la même réponse. C'est-à-dire que moi, c'est le tout faire. Non. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup Nuno Mendes. Je suis d'accord qu'il est sous-payé. Il faut lui faire une meilleure proposition, etc.
Après. On ne connaît pas la proposition, mais.
C'est ça, on n'a pas les chiffres exacts. Donc, évidemment, le rehausser. Par contre, tout faire, non. Je veux dire, on a Lucas Hernandez qui est un super joueur qui revient là, qui
s'est fait deux fois les croisés.
Ça, je suis d'accord, faut faire attention quand même. Il va reprendre tranquillement.
Pas un immense gâchis de vendre à Nuno Mendes, comme le disait Clément, 22 ans, qui est une référence à son poste, un poste très recherché.
Mais moi, je pense qu'il va pas partir. Parce qu'en fait, à la base, c'est parti de quoi? C'est parti Amorim, qu'il a lancé au Sporting, qui voulait le prendre à United. Mais là, United, c'est quand même.
Il y aura une offre de la part.
Il y aura une offre. Ils vont en faire une pour cet été, c'est sûr. Mais après, aller dans le bourbier d'United maintenant, je ne sais pas si ça fait rêver beaucoup de joueurs. Donc après, voilà, il y a ça. Et puis, voilà, pour aller chercher Nuno Mendes au PSG, il va falloir payer très cher. Peu de clubs sont capables de le faire. Donc voilà, je pense que le PSG a l'écart. Il a encore ce contrat jusqu'en 2026. Donc il n'y a pas d'urgence.
D'ailleurs, à Manchester, Diogo Dalot, ça fonctionne plutôt bien en ce moment. Ouais. C'est assez étonnant.
Ouais, mais qui à la base, il joue à gauche. Il joue à gauche là, mais c'est plus un piston droit à la base.
Juste deux petits freins peut-être à la suite de l'aventure concernant Nuno Mendes. Bon, c'est encore le côté Luis Enrique est compatible. On sait que cette année, il y a des prérogatives plus défensives. Et puis la fragilité. Il a disputé hier son 100e match. On peut voir les stats de Nuno Mendes avec le PSG. J'ai regardé à la louche, il en a manqué 50, un petit peu plus, une 60 de matchs, avec notamment cette grosse blessure aux adducteurs.
J'ai l'impression qu'il est de moins en moins blessé quand même. Il a une période de grosse...
Depuis un an quasiment.
Donc on croise les doigts. Je ne suis pas d'accord sur le Luis Enrique pas compatible. Je trouve que déjà depuis un bon mois et demi, il y a eu du move. Plus de liberté.
Le troisième qui redescend.
Beaucoup de travail défensivement, parce que je trouve que c'est un joueur qui offensivement est très bon, on est tous d'accord avec ça, mais qui a quand même des grosses lacunes tactiques, et notamment sur le point de vue défensif. C'était plus un piston gauche, comme on disait, un joueur de défense à trois.
Le système de Ruben Amorim.
Clairement.
Ce que je te disais pendant la pub, c'est que quand tu vois le niveau d'Hakimi à droite, à un moment donné, tu dois accepter de faire des sacrifices un peu à gauche pour compenser.
Je trouve qu'il s'est quand même beaucoup amélioré d'un point de vue défensif. C'est pas encore pour moi une référence ultime en termes d'arrière gauche dans une défense à 4, mais il a fait des gros progrès.
Comment ça doit se terminer tout ça? A priori,
on va lui faire une offre, on va augmenter notre offre sans aller, je pense, peut-être pas aussi haut que ce qu'il espère, mais je pense normalement qu'on va réussir à trouver une solution.
Oui, et puis on va s'investir où il y a beaucoup de Portugais, en plus ce serait dommage qu'ils partent.
Et puis là, par rapport à d'autres cas de prolongation qui posent problème, là il est encore jusqu'en 2026, c'est pas 2025, on a un peu le temps.
Il sera libre dans un an.
Il faudrait juste pas que ça le perturbe et qu'il soit de moins bon.
Des dossiers qu'on connaît déjà, Mbappé, Rabiot, pour ne citer que. Un petit coup d'œil messieurs sur le calendrier, prochain match dimanche au Parc face à Saint-Etienne, la Coupe de France ensuite face au Petit Poussé Pali Saint-Marcel, Lens PSG, puis le grand rendez-vous PSG City le mercredi 22 janvier. Ça approche déjà. On passe à l'Omnisport avec les résultats de vos clubs franciliens du week-end. C'est avec Raphaël Redon.
Ce week-end, le Racing a encore pu voir tout l'écart qui le sépare des meilleures équipes du top 14. Sur la pelouse de Toulon, les ciels et blancs se sont inclinés 36-24. Seule la performance XXL de Nolan Legarec, auteur de 2 essais et 19 points, a permis au Racingmen de ne pas sombrer. Mais à Mayol, les Toulonnais ont contrôlé, inscrit 6 essais pour s'assurer du bonus offensif et plonger un peu plus le Racing dans le doute. Paris non plus n'a pas fait le poids contre un autre ténor du championnat. Sur sa pelouse de Jean-Bouin, le club de la capitale a été humilié 46-19 par l'UBB. Pourtant, à la pause, les Parisiens ne sont menés que d'un point. Mais en seconde période, malchance et imprécision ne résistent pas à la force de frappe de la ligne arrière bordelaise, incarnée par Louis Bielbiaré, auteur d'un doublé. Avec cette 9e défaite de la saison en 14 matchs, le Stade français avant-dernier est en pleine crise. En Euroleague, Paris n'y arrive plus. Après une série de 10 victoires consécutives, les Parisiens ont enchaîné une 4e défaite de rang vendredi contre Barcelone. À Bercy, Paris a toujours été derrière au score et ses stars Tidji Short et Nadir Ifi n'ont pas pesé autant que d'habitude. Défaite 90-79, les Parisiens, un temps leader, reculent à la 4e place de cette Euroleague. Enfin, en Ligue Magnus, dans un match en retard de la 9e journée, Sergi Pontoise s'est imposé 5-2 sur la pelouse de Briançon. La victoire s'est dessinée dans les dernières minutes grâce à des buts de Christopher Théodore, Tyler Welch et Antoine Adamo. Avec ce succès, les Franciliens 9e se donnent de l'air sur le bas de tableau où l'on retrouve Briançon, lanterne rouge.
Cap Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à mes deux chroniqueurs du soir, Clément Pernia et Alexandre Marois. Merci, merci messieurs. Merci également à Jordan Le Sueur qui était à l'édition. Je vous rappelle que Cap Paris est disponible en replay, en podcast, sur l'appli RMC BFM Play ainsi que sur le site web de BFM Paris. Très bonne semaine à tous. On se retrouve lundi prochain dans Cap Paris. Ciao, ciao.